Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime.
Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime.
Merci d'être de retour avec nous pour un nouvel épisode.
Vous le savez, ça nous fait toujours tellement plaisir de vous revoir au rendez-vous. Et parlant d'être au rendez-vous, nous on l'est à toutes les semaines sur nos réseaux sociaux, aka sur Instagram. Et on vous invite encore une fois à être au rendez-vous dans nos notes sur Spotify, Apple, peu importe la plateforme d'écoute que vous utilisez pour écouter ce podcast. S'il vous plaît, prenez un petit 2 puis donnez-nous une note.
S'il vous plaît.
Une autre petite question comme ça que je pense que je vous ai déjà posée, mais est-ce que vous faites l'intro avec nous, genre?
Ça nous arrive quand même assez rarement de pas suivre notre intonation habituelle à l'intro, mais ouais, est-ce que vous le faites? Parce que moi, je sais que quand j'écoute certains podcasts, je le fais. Comme Murder with My Husband, quand elle dit « He's the husband and I'm the husband », je le dis avec eux.
J'allais dire exactement ça. « I'm the husband ». Tout le temps. Genre, je marche dans la rue, puis je suis comme « I'm the husband ». Les gens me regardent genre « OK, OK, une autre non-binaire par ici ». Non, 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 t'inquiète.
Une autre non-binaire?
Jess? Je suis là avec mes cheveux full longs, puis je suis comme « I'm the husband ». Les gens sont comme « Es-tu correct? »
Je pensais que tu t'étais trompée, tu voulais dire « neuro-spicy ». Et non, non, OK, c'est moi qui ai mal compris. J'ai pas pris ma vivance aujourd'hui parlant de « neuro-spicy ».
Ouais, ça fait quelques heures qu'on est en enregistrement d'ailleurs. On est en pleine tempête. Fait que ne nous en tenez pas rigueur. On dit des jokes plates. On se prend pas au sérieux. Mais on va se prendre au sérieux quand on va entrer dans la portion de l'épisode, promis.
Puis avant d'entrer justement dans le vif du sujet, on va faire la recette de cocktail.
Que tant qu'il a déjà été en train de déconner, vaut mieux le faire avec un cocktail, tu sais?
Exactement. Là, on dit pas que vous avez besoin d'alcool pour avoir du fun. Mettez pas des mots dans notre bouche.
Wow, wow, hey, 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 on se câble.
Donc aujourd'hui, on boit un Danish Sour. Les ingrédients que vous allez avoir de besoin, c'est 1 once de whisky, 1 once de jus de pamplemousse. On vous conseille de le presser vous-même. Et si vous êtes au Canada, on vous implore de regarder la provenance de votre jus et de ne pas en acheter en provenance des États-Unis. On se doit d'être solidaire envers notre économie, s'il vous plaît, la gang. Ensuite, 1/2 once de sirop simple, 1 blanc d'œuf et du zeste de pamplemousse. Maintenant la recette. Dans un shaker, vous allez combiner tous les ingrédients que je viens juste de dire. Et Jess, qu'est-ce qu'on fait?
Shake, shake, shake! Celle-là aussi, est-ce que vous l'avez faite avec nous? S'il vous plaît, dites oui!
Et vous allez prendre le contenu du shaker, puis pour le verre, en fait, vous pouvez vous faire un rebord de sucre et le décorer avec une torsade de pamplemousse. Puis là, c'était peut-être pas clair de la façon que j'ai dit ma phrase, mais vous prenez votre shaker, vous le versez dans votre verre, mettez ça cute comme que vous le voulez. That's all basketball!
Hey! J'allais dire exactement ça. C'est comme si tu m'avais enlevé les mots de la bouche.
Donc, pour la note pour le cocktail, je sais, toi, Jess, que t'es moins fan. Ben, d'un, y a pas de pétillant, puis je sais que t'es moins fan du fait qu'il y a un blanc d'œuf. Non, ça, c'est ma cola qui déteste ça, je m'excuse. Mais t'es moins fort de ces alcools comme le whisky. J'ai hâte de voir ta note à toi. Moi, c'est le pamplemousse qui vient pas tant me chercher. Désolée, Gandalf vient de se poser juste à côté de moi, puis il est tellement mignon. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, moi, c'est le pamplemousse, le jus de pamplemousse que ça vient pas vraiment me chercher. Je dirais un 6 sur 10.
Tu t'es pas trompé. J'ai un point commun avec ta coloc. C'est moi aussi que ça lui donne envie de vomir, d'avoir un jaune d'œuf pas cuit dans mon verre. Genre, moi des œufs crus, ça va. Même si c'est un blanc, même si c'est un jaune, je m'en fous, c'est pas cuit, ma bonne chum.
C'est parce que là, en arrière-plan, j'essayais de dire en silence un blanc, parce que c'est un blanc d'œuf qu'on met dans la recette. Puis Jess, elle est là, je t'arrête ça tout de suite, j'haïs les deux.
Ah non, c'est ça, moi, c'est comme, c'est pas cuit. Je ne peux pas. En tout cas, mais je dois avouer que pour des pisco sour, ça fait vraiment la job. Faut juste pas que je le sache, que j'ai comme de la glu dans mon jus. Pour ce jus gluant-là, je dois avouer que ça rehausse le goût du whisky qui, comme tu l'as mentionné, n'est pas du tout dans mes alcools de prédilection. Moi, je suis une fille bien bizarre, je suis une fille de tequila. Je sais pas pourquoi, j'aime pas l'alcool brun, je déteste... Le seul alcool brun que je peux boire, c'est le Cellar Jerry. Et là, je pense que c'est un rhum qui vient des États-Unis, donc je ne pourrais plus le boire.
Non, effectivement, mais le meilleur rhum vient de Cuba, non?
Ouais. J'aime bien le rhum blanc.
Jess a le droit de ne pas aimer le rhum brun. C'est bien correct, mais t'as pas le droit de pas dire ta note. C'est quoi ta note?
Ah oh, ouais, c'est là où je m'en allais. Hein. Je pense que je vais aller pour un 7, parce qu'il y a du pamplemousse. C'est comme, j'aime beaucoup les sour. Tout ce qui est sour, j'aime ça. Seule affaire, faut pas que je me rappelle qu'il y a un blanc d'œuf là-dedans. Fait que 7 sur 10.
Je sais qu'il existe des alternatives véganes pour justement remplacer le blanc d'œuf dans les cocktails. Je sais juste plus c'est quoi les alternatives, mais bref, si vous les savez, slide dans les DMs, dites-nous-le, puis sinon, ben, on va faire nos recherches, puis on va vous revenir avec ça au prochain épisode. Peut-être.
Peut-être. Et juste avant, je dois vous dire cheers.
Chin, chin.
Vous le savez, c'est maintenant le temps de vous présenter l'organisme du jour, et aujourd'hui, Crème et Cocktail a décidé de mettre de la lumière sur la Fondation Stéphane Crétier. La Fondation Stéphane Crétier, c'est un organisme de bienfaisance canadien qui a été fondé en 2006 par Stéphane Crétier et par Stéphanie Mallory. Mallory, je suis vraiment désolée si j'ai massacré ton nom, nul n'était mon intention. Bien qu'ils résident à Dubaï depuis 2010, ils restent profondément attachés à leurs racines canadiennes et ils s'investissent activement dans des causes locales. Stéphane Crétier est un entrepreneur influent qui est connu pour être le fondateur, président du conseil et PDG de Garda World, qui est l'une des plus grandes entreprises de sécurité privée au monde, qui compte plus de 132 000 employés répartis dans 45 pays. La mission de la Fondation, c'est de redonner à la collectivité en soutenant divers organismes à but non lucratif à travers le Canada. En d'autres mots, la Fondation, elle offre un soutien financier à divers organismes de charité qui sont enregistrés grâce à des dons, tout en sensibilisant la population sur l'importance de son rôle en matière de sécurité publique.
La Fondation est également à l'origine du programme BOLO, qui est une initiative innovante qui vise à sensibiliser la population à la sécurité publique et à faciliter la recherche des fugitifs les plus recherchés au pays en mobilisant les citoyens. Plus précisément, là, le programme BOLO, c'est une initiative qui exploite la puissance des réseaux sociaux et des nouvelles technologies pour inciter la population à rester vigilante et à fournir des informations pouvant mener à l'arrestation des fugitifs les plus recherchés au Canada, contribuant ainsi à bâtir une société plus sécuritaire, productive et prospère.
Merci beaucoup à Stéphane Crétier et à toute sa fondation et à toutes les gens qui y sont impliqués pour nous aider à nous éduquer sur la sécurité. On s'entend qu'on en a tous besoin. Mesdames et messieurs, c'est la saison du Verseau! Le Verseau, c'est un signe d'air. Colin, j'ai tombé de la bizarre. Le Verseau, c'est un signe d'air qui est célébré entre le 20 janvier et le 18 février. C'est un signe qui est considéré un peu comme l'espèce d'extraterrestre de tous les signes astrologiques. Et ça, c'est dû à ses tendances avant-gardistes, au fait que plus souvent qu'autrement, le Verseau, il s'en fout de ce que les mondes, de ce que les gens pensent de lui. Je suis vraiment désolée, mais on ne va pas réenregistrer. Ça va être comme ça que ça va se faire. Ça va être chaotique aujourd'hui. Ça va être ça. On reprend du sérieux, on y retourne. Le Verseau, il se fout de l'opinion des autres parce qu'il est somme toute assez difficile à saisir de prime abord. Un peu comme le Verseau dont on va parler dans l'épisode du jour. Nos sources pour l'épisode d'aujourd'hui sont murderpedia.com, vocomedia.com, wikipedia, imbd.com, pureodk.com et YouTube. Peter Lundin est né le 15 février 1972 à l'hôpital Roskilde Sigeus, qui était le principal établissement de santé dans la région danoise du Zealand. Son père, Ol Bostrom Lunden, a rencontré sa mère, Anna Schaffner, lorsqu'il était déployé dans l'ouest de l'Allemagne par l'armée américaine. Ol, il était originaire du Canada, mais il a dû déménager aux États-Unis avec son frère pour pouvoir servir dans l'armée, pour pouvoir conserver sa citoyenneté danoise, qui apparemment était impossible de faire lorsque tu rejoignais l'armée canadienne. Ol caresse toujours le rêve de retourner vivre aux États-Unis lorsqu'il rencontre et épouse Anna, et éventuellement, elle va le convaincre de déménager au Danemark pour se retrouver un emploi qui va lui permettre d'être plus présent pour élever son fils Peter. Ce qu'il va faire, il se décroche un emploi dans le domaine de la construction en tant que maçon, c'est littéralement la personne qui pose les briques, et il parvient lui-même à bâtir de ses propres mains la maison dans laquelle Peter va passer les 10 premières années de sa vie. Malheureusement, dû à des problèmes financiers, le couple va éventuellement perdre leur maison et au moment de se relocaliser, Ol va décider qu'il est temps de ramener sur la table son plus cher rêve, le grand et fameux rêve américain. Toute la famille plie bagage et se dirige vers la Floride. Et Peter, il n'a que 9 ans lorsqu'il va déménager et qu'il doit recommencer sa vie à zéro. Et bien évidemment, ça n'a pas été de tout repos pour lui. Là, on passe littéralement du Danemark à la Floride. On s'entend que c'est clair que ça fait un gros choc culturel, surtout pour un petit enfant. Mais il est quand même bon pour s'adapter. Ça se passe quand même bien. Par contre, ses parents vont rapidement devenir vraiment, vraiment occupés parce qu'ils vont s'être procuré un petit motel et une petite maison à Ormond Beach, toujours en Floride. En 1984, malgré le fait que le motel connaît un grand succès, la famille va décider de replier bagages et de s'installer dans la petite ville de Maggie Valley, en Caroline du Nord. Jusque-là, il n'y a rien à signaler quant au comportement de Peter. C'est un enfant assez complaisant et facile à vivre, surtout quand on considère tous les changements qu'il a déjà vécu à son jeune âge. Et heureusement, il ne peine pas à se faire des amis là où il déménage, donc les parents ne s'inquiètent pas du tout du comportement de Peter. On est à Crème et Cocktail et vous savez bien que les choses vont commencer à se corser et ça va se faire quelques années plus tard lorsque le couple que forment Hull et Anna va commencer à sérieusement battre de l'aile. Voyant bien qu'Anna, elle avait dans l'intention de se battre pour obtenir la garde de Peter, Hull va plutôt prendre la décision de juste prendre leur enfant et de s'installer à Los Angeles. On va souligner ici qu'on est dans les années 80, le père a malheureusement beaucoup, beaucoup plus de droits que la mère, donc il n'y a comme aucun moyen légal pour Anna de se battre contre son propre mari sans le divorcer et d'exiger que son enfant reste près d'elle. Donc puisqu'elle ne voulait pas mettre fin au mariage définitivement, elle ne peut pas déclarer que son fils a été kidnappé. Honnêtement, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre la logistique derrière tout ça, mais reste que c'est l'information qu'on a. Hull est maintenant sans le sou, il peine à trouver un endroit convenable qui va l'aider à le faire vivre, lui et son fils Pete, et son fils Peter, donc il va reprendre la route à destination de New York. Il va se rendre compte assez rapidement que le coût de la vie new-yorkaise n'est pas moins cher que celui de la Californie, et donc il va se résigner à déménager à Boston encore avec son fils. Ça fait pas mal de déménagements pour un jeune qui n'a même pas encore atteint 16 ans. Boston, c'était pas du tout la ville dans laquelle Hull se voyait réaliser ses rêves. Il se sentait pas chez lui là-bas, alors il va reprendre la route en direction de la Floride. Je veux juste mentionner que tous ces déménagements-là, ça s'est fait en moins de 5 ans et Peter a 14 ans quand il s'installe à Miami avec son père et que sa mère décide de venir les rejoindre et de reprendre leur relation là où elle l'avait laissée. Donc le père va se décrocher un nouvel emploi, toujours dans le domaine de la construction, un emploi quand même assez similaire à celui qu'il occupait au Danemark. Et tout semble rouler comme sur des roulettes pour la petite famille. Mais on l'a dit, on est à Crème et Cocktail, vous savez très bien que les apparences sont parfois bien trompeuses. Les problèmes matrimoniaux d'Hull et d'Anna vont juste continuer à s'empirer et l'ambiance dans la maison est tout sauf saine pour le développement adéquat d'un enfant. Justement, dès que Peter va atteindre l'âge de 16 ans et peut donc légalement abandonner ses études, il va décider de le faire, il quitte les bancs d'école et il veut plutôt aller gagner sa vie sur le marché du travail. Assez rapidement, il va se décrocher un petit emploi de service aux tables, mais tout aussi rapidement, il va décider que ça ne l'intéresse plus. Il va ensuite décider de s'essayer dans le domaine de la construction, il décroche même un poste assez similaire à celui que son père occupe, mais ça aussi, ça l'emmerde. Il va doucement développer une envie de faire de l'argent facile, comme les criminels qu'il voit à la télé, dans les séries, dans ses films préférés, et comme ceux qu'il a vu vendre de la drogue dans le resto-bar où il a été employé pendant quelques semaines. Justement, c'est à ce moment-là où l'intérêt commence à se développer qu'il va commencer à consommer avec ses amis. Ce qui a d'abord commencé par des petits joints partagés entre amis, ça va rapidement se dégrader, se transformer en soirées beaucoup, beaucoup trop arrosées et parsemées de cocaïne. En gros, le Peter sombre doucement dans l'enfer de la drogue. Et lorsqu'Anna se fait convaincre par Hull de retourner vivre en Caroline du Nord, tout le monde replie bagages et part s'installer dans cet état que Peter n'aime pas vraiment. Il va se faire convaincre par ses parents de reprendre ses études et au lieu d'en profiter pour devenir un élève modèle, trouver le métier qui va le passionner, il en profite plutôt pour se trouver des contacts et commencer à vendre du cannabis à ses camarades de classe. La descente de Peter dans les abysses de la consommation, elle s'accélère à vitesse grand V et malheureusement, il n'y a plus grand-chose à faire pour arrêter sa chute.
Mais si l'enfance de Peter a été marquée par une relation trouble avec son père et plusieurs déménagements brutaux, ce n'était rien à comparer à ce qui allait suivre, parce que Peter London ne s'est pas contenté d'être un ado à problème, il allait bientôt commettre l'irréparable. Son premier meurtre, et il a commencé par la personne qui lui avait donné la vie. Le meurtre d'Anna Schaffner s'est produit aux alentours du 1er avril 1991, du moins c'est la date estimée parce que la vérité, elle, reste floue. Peter London avait 19 ans à l'époque et depuis longtemps, la maison familiale était un véritable champ de bataille, comme Jess en a parlé plus tôt. Entre l'alcool, la violence et les tensions constantes, l'atmosphère était explosive. Peter et son père s'en prenaient régulièrement à Anna, à tel point que les voisins avaient déjà alerté la police à plusieurs reprises, mais à chaque fois, aucune suite, comme on le voit trop souvent dans des cas de violence conjugale. Comme si tout ça n'avait jamais existé. Ce jour-là, une dispute éclate, Anna veut couper les longs cheveux de Peter, un détail anodin qui va déclencher l'irréparable. Dans un excès de rage, Peter l'étrangle, son père est là, complice par son silence. Ensemble, ils vont transporter le corps jusqu'à Buxton et ils vont l'enterrer sur la vaste plage de sable de Cape Hatteras, croyant avoir effacé toute trace de leur crime. Mais 7 mois plus tard, le 1er novembre 1991, un détail qu'ils n'avaient pas prévu va tout faire basculer. Près du fort des Outer Banks, des passants découvrent un corps rejeté par la mer, enveloppé dans une couverture bleue, emballé dans du plastique noir, scellé avec du ruban adhésif et une corde jaune, le cadavre d'une femme refait surface. À ce moment-là, Peter et Hall sont déjà loin. Ils ont fui les États-Unis direction le Canada, pensant avoir semé leur passé, mais le 6 juin 1992, ils sont retrouvés et arrêtés dans une chambre d'hôtel à Toronto. En juillet 1993, Peter London est condamné à 20 ans de prison dans le comté de Dare. Son père, Hall, écope de 2 ans de détention pour complicité, et oui, 2 ans, pour avoir été complice dans le meurtre de sa femme, de la personne qu'il était censé soigner, aimer, protéger, pour le meilleur et pour le pire. Ça n'a aucun sens. Le tribunal ordonne également leur expulsion vers le Danemark une fois leur peine purgée. Hall finit par être déporté après avoir purgé sa sentence, mais Peter, lui, tente d'alléger sa condamnation et de contester son expulsion. Son appel échoue, mais le 16 février 1995, sa peine est réduite à 15 ans. Il est alors incarcéré au Brown Creek Correctional Institution. En 1994, alors qu'il purgeait encore sa peine, Peter London a été interviewé par la chaîne de télévision danoise TV2. Le reportage, produit par Nordic Film TV et organisé par le journaliste Jesper Klit, s'intitulait « Le rêve américain » et explorait les parcours de jeunes Danois partis vivre outre-Atlantique. Peter London n'était pourtant pas censé faire partie de l'émission, mais son histoire a été découverte au hasard quand un employé de la télévision danoise est tombé sur un article relatant le crime de ce citoyen danois reconnu coupable du meurtre de sa propre mère. Intrigué, le journaliste a alors contacté Peter London par lettre pour lui proposer une entrevue. Contre toute attente, Peter a accepté et les autorités pénitentiaires américaines, connues pour leur approche plutôt permissive en matière de médias, ont autorisé l'entretien. Pendant l'interview, Peter London a fait quelque chose d'assez étrange. Il a peint son visage en 2 parties, une partie en noir et l'autre partie blanche, affirmant vouloir symboliser le combat entre le bien et le mal. C'est un geste théâtral qui n'a pas manqué d'attirer l'attention des experts. Après avoir visionné l'interview, le célèbre psychiatre suédois, le professeur Sten Levander, a évalué Peter London selon la Psychopathy Checklist et lui a attribué un score de 39 sur 40. Un score glaçant et petit fait morbide, Ted Bundy a eu le même score sur ce test. Le documentaire a été diffusé sur TV2 le 14 décembre 1994. Peter London finalement n'a purgé que la moitié de sa peine. À cette époque-là, l'État de Caroline du Nord faisait face à une grave surpopulation carcérale. La situation était exacerbée par un afflux massif de prisonniers issus de l'armée américaine, principalement en provenance de la base militaire de Fort Bragg. Pour désengorger ces prisons, l'État a pris une décision radicale, réduire de moitié les peines des détenus incarcérés après une certaine date. Et comme la loi ne permettait pas de transférer un prisonnier vers un autre État américain, Peter London a pu bénéficier de cette mesure. Le 4 juin 1999, il atterrit à l'aéroport de Copenhague et escorté par 4 policiers américains. Dès son arrivée, il s'installe avec sa femme, Tina London, qu'il avait épousée en 96 alors qu'il était encore derrière les barreaux, et la fille adolescente de celle-ci, Amalov. Mais Peter London n'allait pas rester sage bien longtemps. À l'automne 1999, après une violente altercation avec sa femme et sa belle-fille, qui a conduit à son expulsion de l'appartement, Peter s'est retrouvé à vivre au Men's Home dans le quartier de Norebro. Le Men's Home, c'est généralement un établissement d'hébergement destiné à des hommes en situation précaire, souvent pour des raisons liées à des problèmes personnels, sociaux ou économiques. Pendant cette période, il fréquente un bordel situé sur, je m'excuse, je vais massacrer le mot, Fassrenver 239 à Copenhague, où il fait la rencontre de Marianne Pedersen, une employée de l'établissement. Marianne Pedersen, elle avait 36 ans, elle était en retraite anticipée et elle était veuve depuis un an. Son défunt mari, ancien peintre en bâtiment, et elle avaient ouvert un salon de massage, donc le petit bordel, où elle travaillait comme travailleuse du sexe. Marianne Pedersen vivait avec ses deux fils, Denis et Brian, dans la banlieue de Copenhague, et peu de temps après, elle et Peter London ont entamé une relation. Le 3 juillet 2000, le beau-fils aîné de Marianne a signalé sa disparition ainsi que celle de ses deux garçons. Inquiet de ne pas pouvoir les joindre sur leur téléphone portable, il s'est rendu chez eux et a trouvé un mot sur la porte indiquant qu'ils étaient partis en vacances. La formulation inhabituelle du message l'a tout de suite alarmé. Quand il est rentré dans la maison, il a découvert un intérieur en désordre. Des meubles déplacés, des déchets éparpillés, du vomi dans les toilettes et une odeur étrange provenant du sous-sol. Ce qu'il ne sait pas à ce moment-là, c'est que quelques jours plus tôt, dans cette même maison, un massacre a eu lieu. Dans la nuit du 16 au 17 juin 2000, une violente dispute éclate entre Peter et Marianne. La tension monte rapidement jusqu'à ce que Peter s'acharne sur elle et l'étrangle de ses propres mains. Ses deux fils, Denis et Brian, sont témoins de la scène. Pris de panique, ils tentent de fuir ou de s'interposer, mais Peter ne leur laisse aucune chance. Il s'en prend à eux avec la même brutalité, brisant leurs coups l'un après l'autre. Le carnage ne s'arrête pas là, sachant que la disparition soudaine de la famille soulèverait des questions. Peter London prend une décision aussi macabre que méthodique. Il va faire disparaître leur corps. Il descend le cadavre de l'un des garçons dans la cave où il commence à le découper. L'autre subit le même sort dans le garage où Peter utilise une meuleuse et une hache pour morceler les corps. Désolé, j'ai de la misère à dire parce que je trouve ça complètement dégueulasse. Il nettoie tant bien que mal les traces de sang, mais l'horreur de son acte imprègne les murs et le sol de la maison. Dans les jours qui suivent, il se débarrasse des restes dans des conteneurs à déchets aux alentours, s'assurant qu'ils soient incinérés avec les ordures. Il va même aller jusqu'à nettoyer le congélateur où il avait temporairement entreposé les corps, effaçant toute preuve évidente. Puis, il rédige un mot maladroitement formulé, prétendant que Marianne et ses fils sont partis en vacances. Ainsi, quand le beau-fils de Marianne pousse la porte de la maison et découvre le désordre, l'odeur étrange et les indices troublants, il ignore encore l'ampleur de l'horreur qui s'est déroulée entre les murs.
Après le signalement fait par le beau-fils, la police va commencer à enquêter sur la disparition des trois dons, Marianne, Denis et Brian. Lors d'une première inspection de la maison, il y a des traces discrètes de sang qui vont être révélées un peu partout, comme Noémie vient de vous l'expliquer. Il y a une analyse plus poussée qui va révéler que les traces de sang dans le lit de Marianne, dans sa voiture, dans la cave, les éclaboussures entre les carreaux, ben c'est le sang de Marianne. Il y a d'autres traces de sang qui vont avoir été retrouvées sur une planche à découper et dans un mixeur dans la cuisine. Et c'est à la suite de toutes ces trouvailles que la police va décider de se rendre chez Peter pour fouiller les lieux. Peter va affirmer que Marianne et ses fils étaient bel et bien en vacances et que pendant les dites vacances, ils avaient accepté de repeindre leur maison. Par contre, le 5 juillet 2000, on va arrêter Peter London et on va l'accuser du meurtre et on va le placer en détention provisoire pour 4 semaines. L'enquête va rapidement conclure que Marianne et ses enfants avaient été assassinés et démembrés dans leur maison. Comme Noémie l'a mentionné, le premier corps, donc celui de Marianne, avait été décapité dans le sous-sol, tandis que les deux autres ont subi le même sort, mais dans le garage. Il y a un congélateur qui venait d'être nettoyé, comme Noémie vient de le dire, et qui était situé dans une remise sur la propriété des Pedersen. Et celui-là, malgré le fait qu'il a été nettoyé, il contenait quand même des traces de sang. Le commissaire adjoint Nils Kohler de la police criminelle de Kivdor, on est encore une fois désolé si on ne mentionne pas bien les noms, cet homme-là, Nils, a déclaré à la presse, ouvre la citation, « Les lieux ressemblaient à des abattoirs, et ce, même si Peter avait essayé d'effacer ses traces en nettoyant. » Fin de la citation. Les experts médico-légaux ont pu établir que Peter avait utilisé les armes qu'il a utilisées pour pouvoir décapiter les dépouilles, et ils vont découvrir environ 100 marques de coupures visibles sur le sol, et ça va éventuellement révéler l'utilisation aussi de la hache. Donc, il n'y a plus de doute possible, ils savent que c'est Peter qui a commis le crime, et en plus, ils savent avec. Après 3 semaines derrière les barreaux, Peter va changer sa version des faits. Il va raconter avoir entendu des cris provenant du sous-sol dans la nuit du 16 au 17 juin. Il va dire qu'en descendant, il aurait trouvé les 2 garçons gisant sur le sol dans leur sang et qu'il a constaté qu'ils avaient été poignardés par leur propre mère, Marianne, qui selon lui était devenue inconsciente de ses actions parce qu'elle s'était trop droguée. Il affirme qu'il a été pris de colère, qu'il aurait frappé Marianne à plusieurs reprises, mais pas de manière grave. Pourtant, il va affirmer que, étant donné qu'elle avait trop consommé, elle est morte peu après l'altercation, et il va affirmer que, puisqu'il pensait que la police ne le croirait pas, n'accepterait pas la thèse de son innocence due à son passé criminel, il aurait plutôt décidé de découper les corps au lieu d'appeler les services d'urgence. Par contre, le 10 octobre 2000, il passe aux aveux. Il va expliquer qu'il s'est chicané avec Marianne après l'avoir surpris en train de parler d'une manière trop douce, trop roucouleuse avec un autre homme. Il avoue que ça l'a rendu furieux, il s'en est pris à elle et à ses fils sur son lit, leur brisant la nuque à main nue. Il affirme qu'après le triple meurtre, il aurait placé les corps dans les congélateurs de la maison, mais cette version ne correspondait pas vraiment aux preuves médico-légales. Parce qu'il a été déterminé qu'un des garçons avait été tué dans le sous-sol et que c'était peu probable qu'il ait réellement brisé leur nuque de la manière avec laquelle il l'a décrite, malgré le fait que leur nuque était bel et bien brisée. Un peu plus tôt, en juin, avant l'assassinat, il y a des preuves qui démontrent que Peter s'était rendu dans un commerce pour acheter une hache, des gants en caoutchouc, des sacs de plastique, des produits de nettoyage. C'est assez incriminant, merci. Après avoir démembré les corps de ses victimes, il a mis les morceaux dans des sacs de plastique, celui qu'il venait d'acheter, qu'il a ensuite jeté dans des conteneurs à déchets, comme Noémie l'a mentionné, qui étaient destinés à l'incinération parce que apparemment au Danemark, ils incinèrent leurs déchets, ce qu'on ne fait pas ici. Ils n'ont pas le même principe là, de collecte de déchets que nous. Alors c'est pour ça qu'il a opté pour cette option-là, se disant que ben il n'y aurait aucune manière qu'on découvre les restes humains et surtout ben, qu'on l'associe à lui. Il aurait apparemment aussi conduit à travers l'île de Seelen dans l'auto de Marianne, qui était une Ford Mondeo, pour se débarrasser de plusieurs petits morceaux de corps dans divers bacs à ordures pour, bon, espacer les emplacements des corps et donc éloigner le plus possible les preuves de sa personne. Au total, il y a près de 10 000 tonnes de déchets qui vont avoir été fouillés dans les incinérateurs voisins des endroits où on estime qu'il s'est débarrassé des bouts de dépouilles. Malheureusement, les corps de Marianne et de ses 2 fils ne vont jamais être retrouvés. On est en mars 2001, à la veille du procès, et la police et le procureur Eric Merlong espèrent qu'au final, Peter va avouer que son crime était prémédité, que c'était un meurtre au premier degré, mais malheureusement, il n'y a rien de tout ça qui va se produire. Peter va clamer au jury qu'il n'a jamais eu l'intention de tuer qui que ce soit, que ça s'est juste fait tout seul. En parallèle, les juges avaient bien conscience de l'impact médiatique énorme que ce procès avait. C'est un cas qui avait secoué la société danoise pendant près de 8 mois. On l'a mentionné, c'était déjà une personnalité connue là, à cause de son espèce de stunt de demi-blackface qu'il avait fait à la télé. Alors ça l'a créé tout qu'un émoi quand il a été arrêté pour le triple meurtre. Donc, comme je viens de le dire, Peter insiste sur le fait qu'il n'y avait pas l'intention de tuer ses victimes, mais les jurés n'y croient pas et vont quand même le reconnaître coupable des meurtres intentionnels et d'homicide involontaire. Je savais pas qu'on pouvait faire les deux, mais étant donné qu'il y a plusieurs victimes, j'imagine qu'il y a une personne par exemple Marianne, pour qui on a déterminé que c'était un meurtre intentionnel, et ses fils qui étaient comme des dommages collatéraux, si on veut, parce qu'ils étaient sur les lieux, donc ils pourraient avoir écopé d'homicide involontaire, mais ça, ce n'est que suspicion de notre part. En plus de cette condamnation-là, il va avoir été condamné pour vol parce qu'il a dérobé des objets personnels dans la maison de Marianne après l'avoir assassiné. Le procureur va décrire les crimes de Peter comme, ouvre la citation, horrible et effrayant, fin de la citation. Il va d'ailleurs souligner que ses actes étaient atroces et va réclamer une peine de réclusion à perpétuité. L'avocat de la défense, pour sa part, il va tenter de convaincre le jury d'accorder une peine plus clémente de l'ordre de 16 ans d'incarcération. De l'ordre de 5 ans d'incarcération, comparant les meurtres de Peter à un autre cas de crime brutal impliquant le feu, un incendie. Bref, il va essayer de comparer à un autre cas pour obtenir une peine aussi clémente que cette personne-là avait eue. Mais en dépit de ses efforts, le verdict va tomber. Peter London est condamné à la prison à vie. On pourrait croire que c'est la fin de l'histoire de Peter, mais non. On découvre aussi que Hall, le père de Peter, c'est son vrai partner in crime parce qu'en plus d'avoir aidé à camoufler le corps de son épouse qu'il a laissé son fils assassiner, il va avoir aidé son fils à se débarrasser des preuves incriminantes dans le dossier du triple meurtre et il va aussi avoir volé des objets chez Marianne. Et pour ça, il va être condamné à 4 mois de prison. Étant donné la portée médiatique de cette affaire, ça va engendrer des débats politiques. En 2001, il y a une association qui s'appelle The National Association of the Execution of Peter London, va être fondée par des individus encore anonymes à ce jour, et l'association réclame la réintroduction de la peine de mort en sa faveur pour que Peter puisse être exécuté. Mais étant donné que c'est contre le système de loi au Danemark, ça va rester sans suite. Peter a pas la vie facile en prison, pas pantoute. Il s'est fait attaquer à plusieurs reprises, notamment une fois avec une barre de fer et une autre fois avec une poêle à frire. Mais ça l'a quand même pas empêché de se faire maintes conjointes et même de se marier à plusieurs reprises en prison. Et à chaque fois, ces unions se sont terminées dans des circonstances dramatiques, mais peu de temps après, il était de retour sur le marché. Il se trouvait déjà un autre femme. Pour eux, je sais pas comment les prisonniers font pour se trouver des femmes comme ça. Genre, y a-tu un Tinder de prisonniers, genre?
Je sais que tu peux envoyer des lettres à des prisonniers, qu'il y a des sites pour ça. On en avait déjà parlé dans un épisode. Mais je sais plus c'est quoi le terme exact, c'est aussi on en a déjà parlé là, dans des épisodes souvent des femmes qui sont comme en amour avec des tueurs ou avec des criminels, puis c'est juste comme un trouble, si je peux dire ça comme ça, tu sais, c'est quelque chose de, il y a un terme pour ça, c'est comme un trouble mental, là. Les mots me manquent pour bien m'exprimer, mais vous comprenez ce que je veux dire, s'il vous plaît. Je veux pas dire que si votre conjoint est en prison, vous avez un trouble mental, mais moi, je parle vraiment du trouble mental qui fait en sorte que les femmes qui sont attirées envers des tueurs en série, comme le cas d'aujourd'hui. Il y a un nom qui existe pour ça.
Ouais, c'est comme un genre de syndrome de Stockholm différent, là. C'est comme ça. Il y a un syndrome pour ça. Je sais qu'on en a déjà parlé sur le podcast, mais malheureusement, moi aussi, les mots m'échappent. Pour ceux qui étaient là à l'épisode de ce temps-là, ou pour ceux qui savent de quoi on parle, slide dans les DMs, s'il vous plaît. Donc, en conclusion, Peter, il est en prison à vie et malgré le fait qu'il se trouve femme après femme, il se trouve aussi excuse après excuse pour faire parler de lui. Là, il a changé de nom, il a été accusé de trafic de drogue derrière les barreaux, il a continué de s'impliquer dans des violentes altercations physiques avec des co-détenus. Là, vous voyez le genre, là, Peter, il s'est pas tenu tranquille même après avoir été mis derrière les barreaux.
Dans cette histoire tragique-là, Peter London a non seulement commis l'irréparable en assassinant 4 personnes, mais a aussi laissé derrière lui une série de mensonges et d'explications incohérentes pour tenter de dissimuler son crime. L'horreur de ces actes a choqué la société danoise et a fait naître des questions sur les mécanismes qui peuvent mener un individu à une telle violence. Même si la vérité a fini par émerger, il reste impossible de savoir exactement ce qui s'est passé cette nuit-là parce que, bien... Peter London a toujours teinté ses récits de mensonges, laissant planer un doute sur l'ampleur de son implication et ses motivations profondes. L'absence de corps et la brutalité des meurtres restent des éléments qui hantent l'affaire, et l'histoire de Peter London rappelle tragiquement que les apparences peuvent être trompeuses et que sous la surface de la normalité, des drames inimaginables peuvent se jouer. C'est ainsi qu'on va clore l'épisode d'aujourd'hui spécial Zodiac Verseau. Comme on est au 9e épisode de la saison 2, un petit rappel s'impose sur le fonctionnement des saisons à C&C. Donc, une saison, 4 actes, 9 épisodes par acte et 3 semaines de pause entre chaque acte. Comme nous sommes déjà au 9e épisode de la saison 2, on va vous retrouver après l'entracte de 3 semaines qui s'en vient. J'ai dit vraiment beaucoup le mot « acte », mais en gros, on se revoit après une petite pause de 3 semaines, des petites vacances de 3 semaines.
Oui, des petites vacances bien méritées qui vont nous faire grand bien. En attendant, n'hésitez pas à aller réécouter des épisodes qu'on a déjà faits ou tout simplement d'aller visiter d'autres balados. On écoute beaucoup en anglais le balado, le podcast Murder with My Husband, mais en français, il y a Psychocrime qui est excellent et qui se plonge dans la psychologie d'un criminel. Sincèrement, on vous le conseille amplement. Et sinon, on vous conseille aussi le podcast Ars Moriendi, qui est un autre podcast qu'on adore, et on adore d'ailleurs son narrateur, Simon Predge. Alors, on vous le conseille grandement, et sinon, ben, vous le savez, il y a les filles de Captive qui sont excellentes. Vous les connaissez, vous les aimez. On vous les conseille pareil.
Et Distorsion aussi. J'aime beaucoup écouter Distorsion.
Je peux pas croire que j'ai oublié de mentionner Distorsion. C'était le premier podcast True Crime que j'ai écouté en québécois. Shout out Distorsion! Et si jamais vous êtes une lectrice aguerrie, un lecteur aguerri, ils ont aussi fait 2 livres excellents, tellement pertinents, tellement bien illustrés qu'on vous conseille amplement. Donc, encourager l'économie locale, ça se fait pas juste en achetant du jus de pamplemousse qui vient du Canada, ça se fait en écoutant des balados produits chez nous, par nous. Alors voilà, bonne écoute!
Et là, si vous vous demandez, ben Noémie, c'est quoi le teaser pour le prochain épisode dans 3 semaines? Mais en fait, j'en ai pas parce que je voulais essayer une nouvelle formule pour le prochain épisode. En fait, je sais pas de quel cas je veux parler et au lieu de juste naviguer les réseaux ou de faire les recherches par moi-même, je vais vous donner 2 semaines ou 1 semaine et demie après que cet épisode-là soit paru. Bon, peut-être 1 à 1 semaine et demie, en fait, pour me donner le temps de faire mes recherches comme faut, puis de record l'épisode avec Jess. Est-ce qu'il y a des cas que vous connaissez qui n'ont, les victimes n'ont pas eu justice, que leur cas n'a jamais été réglé ou qu'il a été réglé, mais il n'y a toujours pas de justice? Je veux vous donner la chance de nous envoyer des cas de ce genre-là pour qu'on puisse les mettre en lumière à Crime & Cocktail. Donc, envoyez-nous des cas et parmi ceux qui vont avoir été envoyés, je vais choisir un des sujets et je vais mettre en lumière cette histoire-là pour le premier épisode de quand on va revenir de notre pause de 3 semaines.
Un grand merci d'avoir été à l'écoute. Un grand merci d'avoir été là pour ces 9 premiers épisodes du premier acte de Crime et Cocktail. On est vraiment contente avec cette remouture. Ça nous permet de justement prendre le temps d'évaluer vos suggestions. On n'est pas en mode production intense. On est vraiment plus en mode on parle des cas qui nous interpellent. Pour nous, ça nous rejoint vraiment plus et vous semblez apprécier aussi de plus en plus les épisodes. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous rejoindre, à venir nous commenter, à nous laisser des notes. On vous voit, on est super reconnaissantes et ce n'est pas parce qu'on prend une pause de 3 semaines qu'on ne vous invite pas à venir nous rejoindre, à nous écrire en DMs. Et soyez assurés qu'on va pouvoir vous faire des petites stories, des publications éphémères par-ci, par-là, pour vous tenir à jour de l'actualité criminelle, parce que vous le savez, à Crime & Cocktail, on fait souvent ça. Alors voilà, on va pas quitter notre identité, on fait juste vous quitter pour 3 semaines, et on se retrouve dans 3 semaines à
Crime & Cocktail.
Cheers, guys!
Chin, chin!